Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, il y aura le journal de la culture. Et en studio avec nous, il est déjà là, le DJ Bob Sinclar, pour la sortie de son nouveau single, I'm on my way, enregistré avec le Jamaïcain Omi. On va aussi entendre son portrait inattendu par Hélène Manarino, qui est déjà là. Et puis dans les indispensables, des conseils BD, et notamment une signée Fabien Nury, c'est l'auteur aux millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et puis des comics consacrés notamment à une étrange créature. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Votre journal de la culture qui débute par un triste bilan pour l'industrie du disque après, évidemment, le coronavirus.
Oui Philippe, un secteur fortement touché par la crise sanitaire, des pertes très importantes. D'après une étude, fin 2020, le chiffre d'affaires de la musique enregistrée accusera une baisse d'environ 235 millions d'euros, soit une chute de 21%. Les revenus du streaming ne permettront pas d'amortir l'effondrement des ventes de disques, suite entre autres à la fermeture des magasins. Pour les producteurs du syndicat national de la phonographie et de l'union des producteurs phonographiques français indépendants, cette situation aura un impact au-delà des 6 prochains mois. Le syndicat appelle l'État à prolonger et renforcer le crédit d'impôt à la production phonographique et renforcer aussi les moyens alloués au centre de la musique qui vient tout juste d'être créé. Ils veulent également un taux de TVA réduit sur les CD et sur les vinyles.
Le festival de Ramatuelle dévoile sa programmation. Alors en général, quand on vous dit ça, ça sera en 2021. Non, là c'est en 2020.
Évidemment, Philippe, c'est ça. Il aura lieu du 1er au 10 août. Michel Boujna, son directeur artistique, avait annoncé il y a quelques semaines qu'il comptait maintenir son festival. C'est la 35e édition. Alors, c'est chose faite. La programmation a été dévoilée. Jarry, Pierre Palmade, Abdel Malik se produiront. Côté pièces de théâtre, vous pourrez voir Par le bout du nez avec François-Xavier de Maison et François Berléand, que vous avez reçu, Philippe.
Ouais.
Inconnu à cette adresse avec Michel Boujna et Charles Berling. Ou encore Rupture à domicile avec Olivier Sitruc et Anne Planté.
On a reçu aussi Jarry, Abdel Malik. On attend toujours Pierre Palmade qui est coincé dans les embouteillages. Le festival Visa pour l'image maintenu en septembre.
Le festival de photojournalisme, le premier au monde quand même, se déroulera à Perpignan du 29 août au 13 septembre. Une 32e édition un peu réduite. Soirée projection avec respect des règles sanitaires. Certains lieux inaccessibles également. 20 expositions sont prévues sur les questions écologiques et le développement durable. Un reportage de Peter Tonley sur les visages humains du Covid-19 à New York. En plus d'une exposition nommée Pandémie, sont prévues.
On part aux États-Unis, la chanteuse Barbara Streisand qui se mobilise pour la fille de George Floyd. La voix. Dans le casque, waouh!
Je chante comme ça, cette chanson
bien
aussi.
Sûr.
C'est vrai, merci.
Aussi bien que vous parlez anglais.
Exactement, je voulais que je vous fasse un petit.
Non. On n'a pas le temps.
En mémoire de son père, la petite fille de George Floyd, âgée de 6 ans, a reçu des actions Disney de la part de la chanteuse. Jenna Floyd a réagi sur Instagram en remerciant Barbara Streisand et en affirmant qu'elle était désormais une actionnaire de Disney. La valeur des actions n'est pas connue. Alors, avant Barbara Streisand, c'est le rappeur Kanye West qui s'était mobilisé pour la famille Floyd en prenant en charge les frais de scolarité de la petite fille. Il aurait également fait un don de 2 millions de dollars pour soutenir les familles de George Floyd, Amo Arbery et Breonna Taylor, décédés eux aussi lors d'interventions policières.
On reste aux États-Unis, vous avez une nouvelle date, la nouvelle date des Oscars.
La 93e édition est repoussée de 2 mois en raison des fermetures des cinémas et des changements de date de tournage et sortie de films. Elle ne se déroulera pas donc le 28 février mais le 25 avril 2021. La période de sortie de films éligibles aux Oscars est également étendue, ça va désormais jusqu'au 28 février. 2021.
Et puis on pourra pas le lire sur la plage. Vous terminez ce journal avec la date du sortie du nouveau roman de Marc Lévy.
L'homme aux 50 millions de livres vendus dans le monde sortira le 29 septembre. C'est arrivé la nuit aux éditions Robert Laffont Versilio. C'est le premier tome d'une série baptisée 9.
Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure pour votre portrait inattendu.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Bob Sinclar.
Et on est ravis d'accueillir Bob Sinclar.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Si votre nom rappelle au plus ancien un film avec Belmondo, tout le monde a déjà entendu ceci au moins une fois. Ça Ça, c'est votre titre Love Generation qui est devenu le générique de la Starac. Vous avez également été numéro 1 en Angleterre avec Roxy This Party. Je ne vais pas tout citer. Récemment, vous avez fait un titre avec Robbie Williams et nouveauté, un nouveau single. Il s'appelle I'm On My Way avec Omi, créé pendant le confinement. Alors, avant qu'on entende des notes, on va l'entendre en entier tout à l'heure. Comment s'est passé justement le confinement pour vous ?
Bah, merveilleusement. Merveilleusement, parce que, en fait, enfermé, je ne me suis jamais senti aussi libre. Ouais. Et j'ai pu mixer ce que je voulais, faire découvrir aux gens la musique avec laquelle j'avais grandi, celle qui m'a influencé pour faire tous ces titres. Donc, du funk à la soul, disco.
Mais racontez ce que vous avez fait. Donc, vous avez monté, vous avez une chaîne.
De 14h à 15h, tous les jours, j'avais une chaîne de télé ou une émission de radio. Moi, je suis né avec les enfants du rock. Ouais. Donc, j'avais mon rapido à moi. Mmh. Et c'était un rendez-vous merveilleux avec des messages tous les jours, de famille, de... Voilà, ça ponctuait la vie des gens.
Alors, en général, quand les gens disent des rendez-vous merveilleux, des messages, ça veut dire que bon, c'est sympa, il y a quelques messages. Parfois, il y avait 2 millions de personnes dans le monde au même moment qui vous regardaient. C'est astronomique.
Ça,
comme
c'est fou. Je ne me suis pas rendu compte, en fait, de l'impact des réseaux sociaux, mais je l'ai fait spontanément au premier jour du confinement et ça a cartonné.
Mais alors, vous avez fait quoi ? Vous avez passé vos disques ? Comment ça se passe ? C'est quoi le boulot du DJ ? Je vais raconter quand même l'image. Vous êtes dans votre studio, donc vous voyez en train de mixer, vous êtes debout avec l'allure qui est la vôtre. Vous pouvez regarder l'allure et la silhouette de Bob Sinclair sur Europe1.fr. Et puis, vous passez des disques, ça danse, et derrière vous, on voit des rangées et des rangées d'albums. Comment vous avez bossé ?
De vinyle. De vieux vinyle. Au départ, j'arrive dans le studio et je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Moi, je ne veux pas m'ennuyer, c'est impossible. Donc, je cherche toujours des choses créatives à faire. Et là, j'ai dit, allez, je vais utiliser les réseaux sociaux, mais je vais jouer les disques qui sont autour de moi. J'ai toujours des bricoles, des vinyles à jouer. Donc, je joue. Ah tiens, ça c'est pointu, c'est pas grave.
Attendez, vous avez combien de disques ?
Oh, il y en a 35 000 au studio.
Donc si on les passe, les 35 000, est là en 2044.
Ouais, c'est ça. Mais alors, attends, parce que au départ, c'est un peu comme ça au hasard. Ouais. Mais je me dis tous les jours. Il faut quand même être structuré, donc voilà. Donc il fallait tous les numériser les titres, pouvoir les rééditer pour pouvoir les jouer en tant que DJ, parce qu'il faut pouvoir les enchaîner. Donc tout ça, c'était un gros travail, 10-12 heures par jour.
Et il faut qu'ils soient au même tempo.
Pas tous au même tempo, mais en tout cas au tempo.
Ouais. Vous avez déclaré récemment, je me fais chier en jouant de la nouveauté, j'implore les dieux du funk. C'est-à-dire.
Ah, ça, c'est vrai, ça, c'est marrant que tu as vu. La musique manque de fête. Ouais. On est en tout cas dans la dance music, on est vraiment dans un truc très triste. Très guerrier et on manque de joie. Et c'est pour ça que la funk, c'est la joie et le disco. J'ai vu d'ailleurs les plus grosses sessions, c'était les sessions funk et les sessions disco le samedi soir. C'est celles qui ont cartonné.
Vous étiez tout seul vraiment chez vous dans votre studio où il y avait un assistant
Il y avait Cindy.
Ah bah c'est non, mais alors Cindy, on va dire qui c'est. C'est une poupée gonflable.
Non, ouais, c'est pas tout. Elle se gonfle pas, ouais. Mais elle est en plastique.
Ouais, voilà. Elle vient d'où ?
Elle vient de Miami. Enfin, c'est un mannequin de vitrine.
D'accord.
Voilà, qu'on m'a offert. J'aime bien les jouets, moi. Donc, tu vois.
Non, mais qui vous a offert ça ?
Mes enfants.
Dans quel but ? Ah, c'est un cadeau
des
enfants.
Ils me demandent toujours ce que je veux pour mon anniversaire. Donc, pour rigoler, j'ai dit, tiens, tu vois, à Miami, tu te souviens, les nanas qui sont en maillot de bain dans les vitrines. Donc voilà, trouvez-moi ça sur Internet. Ils me l'ont trouvé.
Pendant le confinement, vous avez créé une chanson, un titre, I'm on my way, en collaboration avec Omi. J'avoue, je ne savais pas qui était Omi. Qui est Omi ? O-M-I.
Omi, un chanteur jamaïcain et qui a fait Cheerleaders quand même il y a 4 ou 5 ans, je crois, ouais. Hein, qui a cartonné. Donc il a fait. Donc là, je l'ai rencontré en tournée et pendant le confinement, je l'ai appelé et je lui ai dit est-ce que c'est le moment de refaire une chanson comme ça, fédératrice, autour de l'unité. Et il m'a dit écoute, je vais essayer. Je lui ai envoyé un instru. Comme ça, voilà, on a fait un échange pendant 2 mois.
Il a chanté dessus, vous avez mixé et ça donne ceci. J'adore ce son de cuivre qui ne sont pas des cuivres.
Non, c'est des faux cuivres, mais
ouais,
ils sont là.
Hein, on dirait un sample de cuivre.
Ouais, c'est un sample de cuivre que je rejoue.
Et c'est vous qui jouez ?
Non, je ne fais pas tout. Tu vois, ouais. J'ai partagé sur les réseaux d'ailleurs la façon dont j'avais créé ce morceau avec un musicien, un jeune belge avec qui je travaille qui s'appelle Yanné. Une fille à Amsterdam qui m'aide à faire les mélodies, plus Omi, on était à 4 sur ce titre et on s'est échangé comme ça les instrumentaux pour pouvoir construire on a construit un puzzle en fait.
Que raconte la chanson plutôt
I can feel the power when united, c'est-à-dire que je puisse sentir cette puissance comme nous, quand nous sommes tous unis. Unis autour de la musique.
Power United, merci d'avoir traduit pour Hélène Manarino. je reviens à vos séances de DJ, et vous avez vraiment impressionné des gens, même des gens qui s'étaient un peu détournés de vous. Oui. Je vais citer le magazine belge Le Vif, c'est l'équivalent de l'Express. Il écrit sur vous, ces mix feel good sont devenus une sorte de rituel quotidien contournable. C'est plutôt inattendu de la part de Bob Sinclar, prototype même du DJ de camping qui bronze la moitié du temps à Ibiza. Mais là, enfermé dans son studio Moquette Léopard, il a œuvré sur des terres musicales plus vastes, propriétaire d'une collection de vinyles juteuses entre house, disco, hip-hop et funk.
Ça, c'est quelqu'un qui ne me connaissait pas. Donc,
ça fait plaisir.
Qui ne sait pas qu'en 94, j'ai monté mon label Yellow Productions et que je produisais du jazz, du rap français.
Je veux dire, il a redécouvert.
Ah, il l'a
redécouvert. Parce qu'il voyait comme une espèce de sous-David Guetta, ce que raconte le papier. Ouais. Et justement, il a découvert...
Ça, c'est pas gentil.
Mais non, mais on a toujours le droit de se tromper sur les gens. Et il a découvert, à l'occasion de ça, la culture musicale qui était la vôtre. Et je me dis que ça doit vous faire plaisir.
Si, ça me fait plaisir. Vraiment,
s'il y a des gens qui ne vous entendent que par le générique de la Starac, ils pensent que vous êtes
un produit
formaté.
Non, non, c'est sûr. C'est un peu, je dirais, le quand vous avez fait des très gros tubes, les gens vous mettent dans une case. Et c'est vrai que quand je suis en club, les gens disent, voilà, on veut Love Generation, World Hold On, Rock This Party. J'étais un peu coincé, en fait. Et là, ça m'a permis de faire découvrir toute ma culture et peut-être donc de la mixer dans les futurs mix.
On va découvrir d'autres choses de vous, Bob Sinclar. Il y a Hélène Manarino qui vient de poser son Raps Collins.
Oui, la suite, c'est le portrait inattendu d'Hélène Manarino. Une enquête sur votre vie, Bob Sinclar. On va tout savoir sur vous et vous allez peut-être même apprendre quelques trucs. C'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est alors Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Bob Sinclar, vous connaissez Hélène Manarino ?
Mais oui, mais qui ne connaît pas Hélène Manarino ? Mais je l'ai rencontrée au Festival de l'Alpe d'Huez où j'étais dans le jury. Ouais. Et elle présentait cette cérémonie merveilleusement. Et là... Comment te dire, quelque chose, une espèce d'apparition, ouais. Celle, tu vois.
Vous savez quoi ? Elle revient. Hélène, c'est à vous.
Bonjour Bob Sinclar.
Bonjour Hélène.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, le sensuel, oui, disons-le, votre vrai nom de famille, Le Friand, se traduit
non,
comme ça en breton. Oui. Ou alors le magnifique, puisque c'est grâce à ce film que vous avez choisi votre pseudo, Bob Sinclar.
Nous avons trouvé un interprète albanais, mais il ne parle que le roumain. Alors, il nous a fallu trouver un roumain, mais il ne parle que le serbe. Le serbe ne parle que le russe que le tchèque. Heureusement, moi, je parle tchèque.
On va perdre un temps fou.
Jean-Paul Belmondo, évidemment. Bob Sinclar, le nom de son personnage. Alors, je voulais choisir entre le magnifique et le sensuel. Ce matin, je vous propose de voyager dans votre vie en musique. Ça tombe bien, c'est quelque chose que vous aimez. Alors, Bob Sinclar, avant tout, je vous promets une chose. Les choses seront carrées, puisque c'est essentiel pour vous. Chez vous, tout est rangé, trié, organisé. Vous êtes obligé avec votre rythme, évidemment. Votre dressing est absolument parfait. Des t-shirts noirs que vous pouvez acheter en lot, aux chaussettes en coton noir que vous pouvez acheter en 10 exemplaires. Vous aimez aller au même resto pour commander le même plat. Et lorsqu'il s'agit de partir en tournée, cela nécessite une importante préparation physique, comme un athlète. Alors, vous avez sûrement abandonné vos 1 litre de coca par jour, votre seul et unique vis que vous buviez parfois avec une boule de glace vanille à l'intérieur. Ou alors c'était un indien, grenadine plus orangina. Et il vous arrivait parfois de mettre 4 sucres dans votre thé le matin.
Ça, je fais des excès. Hein.
Véritable nostalgique de l'enfance, vous avez grandi dans le quartier du Marais à Paris où tout était permis, fou, créatif, un lieu de vie que vous avez toujours gardé en vous. Une enfance bercée par Monsieur Pujol, le marchand de bonbons. Dans votre quartier.
Magnifique.
Pour acheter donc des bonbons ou des cahiers à spirale.
Et il y a Félix Potin maintenant, je crois. Un truc comme ça. Malheureusement.
Ça n'existe plus non plus. Hein.
Ah bon ?
Non, Félix Potin, c'est fini.
Ah bah, ça.
Depuis 20 ans.
Ah bon, ça doit être un mini monoprix. Ouais. Alors, un truc
tu sais qu'Antenne 2,
c'est un mini monop maintenant.
On n'est plus Antenne 2. Hein.
Alors baladons-nous, Bob Sinclar, dans cette existence à 1000 à l'heure, rangée et authentique. Et ça commence par Dallas, première musique de votre portrait, le rituel familial du dimanche. Mais vite, finalement, vous dévoriez les 6 chaînes à la télévision. Vous regardiez absolument tout. L'homme qui valait 3 milliards, Drôle de dame, Magnum, Starsky Hutch, le club Dorothée, Téléfoot aussi.
Ah oui.
Une télé en permanence allumée.
Pierre Cangioni.
Une occupation que vous alterniez avec la préparation de toutes vos collections, les cartes Panini, le magazine 11 sur le foot, les baskets, les vinyles, les Burbricks, les Marvel, aujourd'hui dans des cadres pour votre fils Raphaël. Alors vous les avez toujours, mais il y a aussi les livres et objets de vos idoles. Vous pouvez avoir le même livre en 3-4 exemplaires, par exemple sur Coluche, Basquiat, Jean-Paul Belmondo. Et si on vous l'offre une 5e fois, vous serez content.
Je le prendrai avec plaisir.
Et,
oui.
Et vous en faites quoi ?
Bah, il est là, en décoration, mais j'aime bien qu'on m'offre des choses.
Ils sont côte à côte ?
Oui. Ouais.
Les 5 sont
rangés.
Ouais, ouais.
D'accord, ce type est fou.
D'ailleurs, petit, vous aimiez aller chiner des bouquins dans les bacs sur les quais à Paris. Alors, les séries, oui. Et puis, il y avait ça. Fame, évidemment, vous vous imaginez dans la peau de Leroy. C'est là que vous avez commencé à développer vos talents de danseur. Vous avez d'ailleurs très vite remarqué que la danse attirait les filles.
Alors, ado, c'était le DJ, c'était... quand j'ai vu le DJ quand même.
Hein. Ouais, c'était en boîte de nuit où vous êtes devenu un très bon danseur de Smurf. Oh, vous aviez d'ailleurs improvisé une piste de Smurf sur une table avec un plateau de verre dans votre chambre.
Et c'est vrai.
Parfois...
C'est vrai. Bah Sydney quand même, hein, ouais. Ça a cartonné à l'époque.
A chippé, a chopé.
Et parfois c'était sur cette chanson.
Oh. Sugar Hill Gang,
ouais.
Premier disque de rap,
ouais. Avec la basse sortie. Avec la basse de Bernie Edwards de Chic.
Alors je ne raconte pas l'arrivée de MTV à la télévision, ça dansait tout le temps, vous avez baigné dans le disco grâce à votre papa, Diana Ross par exemple, et aussi à la chanson française, Gainsbourg, Sanson, Sardou, William Scheller, que vous écoutiez sur la route des vacances, notamment pour rejoindre le parc d'attractions au Quai Coral.
Alors... Ah oui, c'est, tout est parfait, impeccable.
Alors Bob Sinclair, la danse, mais pas que. Le patin à glace aussi, notamment à la patinoire Montparnasse, pour réaliser...
Il y en a des dossiers là.
Quelques chorégraphies sur une playlist choisie.
Mais bien sûr.
Ah ben oui.
Dites ce que c'est, pour qui ne connaît pas.
Ah, Imagination,
ouais.
Music and Lights.
1982. Alors, il y avait surtout des glaces partout hein, dans cette patinoire, donc vous aimiez vous regarder aussi avec vos copains.
Bon, toujours, ça n'a pas changé.
Ben oui, on en vient à votre côté très sportif. Vous ne reculez devant rien, amateur de sensations fortes, toujours plus haut, plus vite, roller et skate sur l'esplanade du Trocadéro, pour faire peur aussi parfois aux vieilles dames sur le trottoir quand vous arriviez très très vite. Tennis, vous avez été classé. Sportif éphémère également, avec les fléchettes. D'ailleurs, l'une d'entre elles est arrivée dans le dos de votre sœur.
Non.
Ou encore du Nunkatsu.
C'est un détail que j'ai oublié, mais excuse-moi si c'était pas volontaire,
mais là
j'étais maladroit.
Et là encore mal.
Ou encore du Nunchaku. Nunchaku.
Ouais, Nunchaku.
Cette fois-ci, vous lui avez cassé une dent. Bref. Alors,
bon.
Bob Sinclair.
Mais c'est de la faute de Bruce Lee, moi, tu vois. Bon, c'est pas ma faute.
Non, mais vous avez vraiment cassé une dent votre sœur.
Oui. Oui, mais c'était on s'amusait.
Oh, ouais, bien sûr.
C'est des bricoles d'enfants. Voilà. Bon.
Bob Sinclair, une équipe, en tout cas, vous rendez complètement fou. On retourne vers le foot. C'était eux. Et les
bah évidemment, moi aussi.
Rocheteau, Janvion,
toute l'équipe, moi je peux faire toute l'équipe.
Saint-Etienne, 1976, avec cet hymne que vous connaissiez par cœur, finalement comme les répliques des bronzés, des sous-doués, de tous les sketchs de Coluche. Cette passion pour le sport vous a naturellement amené très régulièrement dans cet endroit. Chez Sport 2000 à Montrouge en 1977 pour acheter vos baskets tenues par un certain Jean-Jacques Goldman.
Eh oui. Alors c'était son frère. Le frère de Jean-Jacques Goldman tenait un Sport 2000 à Montrouge.
Incroyable.
Alors Bob Sinclair, vous avez toujours été très fidèle à ce que vous êtes, très famille, généreux, les pieds sur terre, surtout bosseur. Et depuis l'enfance, vous étiez très très bon en maths. Vous êtes une star internationale, disons-le, et vous avez dû faire face à certaines péripéties, comme ce jour où on vous a volé tous vos vinyles. Et oui, à l'époque, pas de clé USB après un concert, ou quand une femme s'est fait passer pour votre femme en bas de votre hôtel. Dommage pour elle, vous veniez d'avoir votre épouse en FaceTime qui était à l'autre bout du monde. Alors, Bob Sinclair, si vous avez voulu être DJ, c'est avant tout pour faire danser les gens. Le tempo, vous l'avez tout de suite donné et finalement, tout le monde vous a suivi dans le monde entier. Alors, Bob Sinclair, n'arrêtez jamais votre rythme.
The Whispers.
Ah oui, je savais pas qui c'était.
The Whispers.
D'accord. Et le titre, c'est comment, Hélène ?
The Beat Goes On.
As the Beat Goes On.
The Beat Goes On, voilà.
Mais c'est très charmant.
Mais oui, bien sûr. C'est vous êtes reconnu.
C'est-à-dire bah, avec
dans le portrait.
Ah, oui, dans le portrait, voilà. Oui.
Merci beaucoup, Hélène.
C'était avec magnifique. Plaisir. Merci, Hélène.
Avec plaisir.
À suivre nos indispensables du jour au programme, un comics Swamp Thing ou La Créature du Marais, la sélection BD de Mathieu Charrier. Ce sera évidemment avec notre invité Bob Sinclair dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
On va parler bande dessinée dans un instant, Philippe, avec Mathieu Charrier. Mais avant, on revient à l'actualité de notre invité Bob Sinclair.
Et dans un instant, on va entendre le titre, le nouveau single de Bob Sinclair. Mais d'abord, question, pendant le confinement, vous avez fait plein de choses, vous avez été très actif sur les réseaux sociaux. On le disait, parfois vos concerts, vos DJ sets étaient suivis dans le monde entier.
Voilà, surtout pour l'émission, hein, recycler tous ces classiques.
2 millions d'auditeurs, de spectateurs, même de danseurs dans le monde. Il y a aussi ce concert que vous deviez faire à l'Arc de Triomphe pour récolter des des fonds en faveur de Médecins Sans Frontières, la Fondation de France et un fonds de lutte contre la maladie du Covid. Ça devait être prévu le lundi 4 mai. Performance en collaboration, je le précise, avec le Centre des Monuments Nationaux Français. Concert interdit au public. Aucun son, je lis le communiqué, ni aucune lumière ne seront perceptibles depuis la place de l'Étoile pour éviter tout rassemblement. Et pourtant, le concert a été malheureusement annulé. Pour
24 heures avant,
pourquoi ils l'ont annulé ?
Interdiction de la préfecture, ils ont eu peur que les gens se déconfinent. Je sais pas, peut-être avec le succès des émissions tous les jours, je n'ai pas tellement d'explications en fait.
Et il va se refaire ? Il va se faire ?
Non, non, je ne pense pas.
Pourquoi ?
Je n'ai pas d'explication non plus.
Non, mais c'est vous qui n'avez pas envie ou personne
non,
ne vous a
contacté ? C'est-à-dire que c'était magnifique de délocaliser le studio sur l'Arc de Triomphe. Ouais. À ce moment-là, les gens étaient devant la télé et en tout cas devant les réseaux sociaux. Ils auraient pu donner beaucoup, beaucoup d'argent pour ces associations. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Alors évidemment, si j'ai l'occasion de faire un concert pour ces associations aussi, mais il faudra réorganiser quelque chose, mais en tout cas pas sur les réseaux sociaux. Quelque chose de live.
Il y a un an, c'est vous qui étiez le DJ pour l'anniversaire de Neymar ? L'attaquant du PSG,
C'est pas mal ça quand t'es... Bah, mais c'est... il m'a appelé en plus. Allô, bon... Il m'a pas dit allô, bonjour. Il m'a dit bonjour, Bob.
Allez-y,
Tout bien, tu veux faire mon anniversaire? Et oui, et je lui ai dit, mais bien sûr, c'est quand on y va? Allez.
Ouais. C'est vrai, c'est comme ça. C'est lui qui vous a appelé pour...
Bien sûr.
Il a votre 06, Neymar.
Ouais, bien sûr.
Incroyable. Vous avez dit oui tout de suite?
Bien sûr. Ah bah non, mais là.
C'était où?
Il y avait
qui? Attends, j'ai trop envie de savoir.
C'était au pavillon Gabriel.
Ouais.
Et là, lui, il fait pas ça en intimité. Hein. Il y avait 2000 personnes, tous ses potes, et puis des journalistes, des sponsors. Lui, il sponsorise son anniversaire. C'est magnifique.
Donc, c'est comme ça que vous avez été payé?
Non, moi, je le fais gratuitement.
Ah, vous l'avez fait gratuitement?
Oui,
en plus.
Non, je l'ai fait pour Federer aussi. Quand j'ai des idoles, il n'y a pas que
vous
l'argent.
Vous faites tous les accents? Vous pouvez me faire Federer qui vous appelle.
L'accent suisse-allemand, il est plus rare.
Et il vous a rappelé pour cette année, Neymar ?
Non, il avait pris. Non, je ne sais pas qui est-ce qu'il a pris. Non, mais je ne vais pas faire tous les ans.
Et il paraît que vous allez faire les 30 ans d'Hélène Manarino.
Ah oui, ça sera avec plaisir. Mais par contre, je le ferai en dîner intime avec elle.
Bim ! Et tu sais quoi ? Elle m'a dit, pose-lui la question, mes parents écoutent.
Ah, il y aura ses parents aussi.
Non. Simplement, ils écoutent, ils ne seront pas là.
Du coup, ça va être payant.
Ouais, ils partiront à l'apéro. Mathieu Charrier.
Voilà, sans transition.
Ouais. J'ai pas le choix. Comment veux-tu enchaîner après que ça? Hélène est en régie, elle rougit. Mathieu Charrier, vous nous livrez des conseils de dîner galant. Non,
oui,
des conseils
ça.
De bande dessinée.
Moi aussi, je fais les chroniques gratos si c'est Neymar qui m'appelle.
Ouais,
pas
et on commence. Oh là, Mathieu. Et on commence par la star française du scénario.
Oui, c'est
Mathieu
la nouvelle
Charrier.
BD de Fabien Nury qui a plusieurs millions de bandes dessinées vendues à son actif. Et pour ce nouveau livre, il s'attaque à une légende. Déjà, est-ce que vous vous rappelez du film American Sniper de Clint Eastwood?
Bien
je
sûr.
Sais pas si vous l'aviez vu.
Oui.
Consacré à Chris Kyle. Vous savez, c'est ce sniper de l'armée américaine qui détient le record du nombre de tués homologués, c'est-à-dire avec TMU1. Il en a tué 160 lors de ses nombreuses missions en Irak. Était tout simplement devenu l'un des héros de l'Amérique. Je dis « était » parce que Chris Kyle a ensuite été tué sur le sol américain alors qu'il encadrait un exercice de tir d'un ancien marine victime du syndrome post-traumatique qui s'appelle Eddie Ray Roos. Dans le film, c'était montré de façon très elliptique à la toute fin. Eh bien, Fabien Nury et Bruno ont décidé donc de consacrer une BD à cet homme, à ce tueur de légende. Ça s'appelle donc « L'homme qui tue Chris Kyle » et pour cause. Et c'est une enquête sur cet individu qui est rentré complètement bousillé d'une mission humanitaire en Haïti après le séisme. Il est devenu lui-même une légende, en tuant donc une autre légende, symbole de cette Amérique contemporaine. C'est ce qu'explique Fabien Nury, le scénariste de la bande dessinée.
Entre Chris Kyle et Eddie Ray Roos, vous avez une affaire typique dans la mythologie westernienne de Jesse James et Bob Ford. Vous avez le célèbre gunfighter, ancien militaire, la légende du Vieux Sud, célèbre de son vivant, le grand tueur, qui serait donc assassiné lâchement par un nobody, jaloux de sa légende en quelque sorte. Et ça m'a permis de faire une sorte de lien entre cette phrase très célèbre de « on est dans l'Ouest ici, quand la légende devient réalité, on imprime la légende », l'homme qui tue à Liberty Valance, l'essence du western, et aujourd'hui c'est les fake news.
Voilà, donc c'est un récit passionnant, documenté, tout est basé sur des faits vérifiés, avec, je le disais, le dessin de Bruno, dont les cadrages se rapprochent de ceux du cinéma. Ça se lit vraiment comme un polar, jetez-vous dessus tout simplement. Ça s'appelle L'homme qui tue Chris Kyle et c'est publié chez Dargo.
Et puis on va rester aux États-Unis pour votre deuxième conseil BD du jour.
Ouais, mais cette fois on est dans l'Amérique profonde des années 30. Roscoe et Mary sont en couple, ils ont un fils et Mary hérite de la ferme familiale. Roscoe va donc devoir devenir fermier, sauf que lui il n'en a pas du tout envie, c'est pas son truc. Alors les affaires vont pas très bien, le couple bat de l'aile et Roscoe devient violent. Jusqu'au jour où il a une idée pour se faciliter la tâche. Il se dit, tiens, je vais détourner une des récentes lignes électriques qui vient d'être installée. Vous savez, c'est la révolution de l'électricité. Et grâce à cela, il va motoriser certaines de ses machines agricoles. Sauf qu'un jour, le shérif frappe à la porte. Roscoe est arrêté parce qu'un employé de la compagnie d'électricité est mort à cause de ce branchement sauvage. Alex W. Inker, l'auteur, a en fait adapté le premier roman de Virginia Reeves.
Il y a cette idée de l'homme par rapport à la grosse machine qui m'intéresse toujours. Il y a l'idée de l'homme qui se met en marge. Pour le roman de Virginia Reeves, on a Roscoe T. Martin, qui est quelqu'un très sûr de lui, qui a des idées, qui est très têtu, qui est persuadé de pouvoir sauver sa ferme. Donc lui, c'est surtout pour sauver son couple. Donc sauver sa ferme en volant l'électricité. Et il va voler le feu aux dieux, comme Prométhée. Donc lui, il va voler l'électricité aux grandes compagnies. Et il va le payer très cher. Et c'est ce schéma qui fait penser vraiment à la tragédie grecque qui m'a vraiment intéressé. Je me suis dit que c'était une histoire très très forte.
Voilà, on est vraiment dans l'ambiance de l'Amérique rurale des années 30, dans les fermes poussiéreuses, vous savez, sur fond de grande dépression, de ségrégation raciale. C'est un récit dense au dessin intéressant, une sorte de crayonné coloré. Ça s'appelle donc Un travail comme un autre et c'est publié chez Sarbacane.
J'ai vu, c'est presque bicolore, voire tricolore plutôt. mais pas quadri. Un dernier conseil, Mathieu, cette fois c'est le dessin lui-même qui vous emballe.
Ouais, ça s'appelle La vague gelée. Alors l'histoire, en gros, c'est Nicolas, un jeune surfeur initié par son grand-père, fan de la culture indonésienne, mais avec lequel il est fâché depuis la disparition de son papa. Entre-temps, il est devenu champion de surf, il enchaîne les grandes compétitions, ça va pas très fort. Mais ce qui est très intéressant dans cette bande dessinée, c'est la forme, puisque c'est dessiné en pixel art. Je sais pas si vous voyez, ça rappelle les jeux vidéo des années 90, c'est-à-dire c'est des mini-carrés, voilà, des tout petits mini-carrés de toutes les couleurs. Il y a très peu de bandes dessinées qui avaient été dessinées sur ce modèle.
Bah ouais, faut des gens qui ont du temps libre.
Il faut des gens qui ont du temps libre, mais c'est très très beau, parce que du coup, ça fait des grands aplats de couleurs, ouais. Ça ressemble un peu à des toiles de peinture. Donc vraiment, lisez-la, ça s'appelle La vague gelée, c'est publié chez Tanibis.
Voilà, surtout si on aime le carrelage. Merci beaucoup, Mathieu Charrier.
N'importe quoi.
Trois albums. Merci beaucoup.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Bob Sinclair qui est notre invité. On va revenir à son actualité dans un instant. Mais avant, comme promis, on parle comics, Philippe, avec Clément Le Saffre.
Et soap-op, ça ne pouvait pas mieux tomber, parce qu'Hélène Manarino nous disait que vous étiez fan de Marvel Comics quand vous étiez.
Je collectionnais les Strange à l'époque. Et les bandes dessinées avec Spider-Man, j'étais fan. Super. Voilà quoi.
On va pas tellement changer d'univers. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous avez apporté un livre avec vous dans ce studio, il fait 8 kilos et j'en déduis que vous allez nous présenter un comics et BD américaine que vous aimez tant.
Absolument, un comics auquel j'avais pas forcément pris le temps de m'intéresser jusqu'ici, une vieille histoire, un vieux personnage. Ce comics, c'est Swamp Thing, la créature du marais. C'est un monstre créé dans les années 70, donc un peu vieux, on le disait, à l'époque le genre fait fureur. Les monstres, c'est un petit succès, donc Swamp Thing, mais qui s'essouffle très vite, sauf que, il va connaître un second souffle dans les années 80, et quel second souffle grâce à de nouveaux auteurs, notamment Alan Moore. Le résultat est sans aucun doute l'un des plus grands comics jamais écrits. Je pèse mes mots quand je dis ça vraiment. Et c'est justement cette version qui est rééditée en ce moment même par Urban Comics sous forme d'une splendide, mais vous l'avez dit, très très lourde intégrale.
Alors c'est quoi l'histoire de cette créature du marais ?
Bien, c'est l'histoire d'Alec Holland, c'est un biologiste qui mène des recherches dans un marais en Louisiane. Un jour, des concurrents font exploser son labo en flammes. Alec Holland s'effondre dans la vase où se mélange aussi le produit de ses recherches. Et là, une sorte de fusion s'opère, le scientifique meurt, mais son esprit, incorporé à l'environnement, donne naissance à un monstre, la créature du marais, un amas de boue et de plantes à visage humain. C'est une véritable abomination, mais elle n'est pas méchante, elle œuvre du côté du bien. Alors c'est un pitch qui est très nanar, je vous l'accorde.
En gros, c'est une histoire de monstre.
Ah oui, c'est évidemment ça, mais c'est bien plus que ça. Ce, grâce à deux personnes. D'abord, on l'a dit, Alan Moore. C'est le scénariste qui a repris en main Swamp Thing en 1983. Et c'est pas n'importe qui, Alan Moore. C'est une légende. Il a créé Watchmen, l'une des plus grandes BD de super-héros.
Exactement.
Très sombre.
Qui est devenue une série, c'est ça ?
Qui est devenue une série, un film, etc. Il a aussi créé V pour Vendetta, autre comics adapté en film. Il a écrit quelques histoires de Batman et Superman aussi. Bref, ça fait un beau CV quand même. Alan Moore, c'est d'abord une écriture bien au-dessus des standards très basiques des comics. Écoutez, c'est un extrait de Swamp Thing lu à voix haute.
Il est arrivé quelque chose ici, quelque chose de brillant et d'affreux à embrasser le monde, laissant une traînée de rouge à lèvres bleuâtre. Sur une peau de cendre noire, les flaques reflètent le feu rouge mouillé, luisant comme une tuméfaction. Le chant des oiseaux mornés se réverbère sur les arbres de métal déformés. Il y a un raclement dans la gorge du vent, et je suis seul. Seul au village de la mort.
C'est quasiment de la littérature.
C'est de la littérature, complètement. C'est très imagé, très recherché, à l'image finalement du scénario, puisqu'Alan Moore a complètement repensé l'histoire de la créature du marais. Il a fait de ce monstre, qui à l'origine était très primitif, très bateau, un héros paradoxalement très humain. Les premiers chapitres au cours desquels la créature prend conscience de ce qu'elle est, de son état, sont d'une humanité bouleversante. Moi, j'étais vraiment soufflé en lisant ce comics. Et puis, Alan Moore aborde aussi des questions de société brûlantes à l'époque et toujours aujourd'hui, finalement. Swamp Thing, c'est d'abord un manifeste précurseur pour la défense de l'environnement, forcément. La créature est un héros, finalement, de son marais, mais de la nature en général. Moore va aussi très loin en abordant des thèmes comme l'enfouissement des déchets nucléaires, le contrôle des armes à feu. Il convoque même littéralement les fantômes esclavagistes du sud des États-Unis. On en parle encore aujourd'hui. Bref, ça questionne et ça dérange.
Vous avez parlé de deux personnes, Clément. Qui est la deuxième personne ?
Mais la deuxième, c'est Stephen Bissett, le dessinateur principal de cette saga. On peut quasiment parler de co-auteur à ce stade. Je vais vous montrer quelques pages là, pour ceux qui nous regardent en vidéo. C'est absolument splendide. Chaque page est une œuvre d'art, c'est une explosion de couleurs avec des dessins très psychédéliques. On est vraiment dans les années 70-80. Alan Moore, il ne tournait pas Callot et Stephen Bissett non plus.
Ça se voit, ouais.
Et je peux vous dire que voilà, ça se voit, ça se sent dans les dessins. Moi, je n'avais jamais rien vu de tel. Il y a des cases qui se chevauchent, qui se superposent. Bissett donne vie à un univers qui est fantastique, peuplé de démons déguisés en hommes, de vampires punk, de sectes sataniques, le tout. Dans le cadre inhabituel d'un marais luxuriant, on n'est pas dans les villes classiques des super-héros. C'est d'une richesse incroyable. Chaque page voilà, est une œuvre d'art en elle-même. Et c'est cette alliance de la forme et du fond qui fait de Swamp Thing finalement un comics hors norme et même, disons-le, un chef-d'œuvre de la littérature.
Et alors, on lit ça où ?
C'est une intégrale en 3 volumes, éditée par Urban Comics. Il y a déjà 2 volumes sortis. Le troisième sera disponible fin août. Et c'est copieux, plus de 400 pages par tome.
Donc 1200 pages, la trilogie.
Exactement.
Bob Sinclair feuillette les pages, ça vous inspire ?
Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. J'adore les vieux trucs, moi. Tout ce qui est fait, 70, 80. C'est...
Ouais, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là ?
J'ai toujours un peu de nostalgie en moi par rapport à la musique que j'écoute et celle qui m'influence tous les jours, de James Brown. Tu vois, de...
Oui, mais là, on peut aussi dire que James Brown, même sans la nostalgie, personne ne lui arrive à la cheville. C'est un avis...
C'est vrai.
Il y a ça c'est aussi,
non ? Non, c'est vrai, je ne sais pas quoi te répondre là-dessus.
Si quelqu'un est mieux que James Brown, il appelle le standard et on passe le disque tout de suite. Vous restez avec nous. Merci Clément.
Dernière partie de Culture Média dans un instant avec notre invité Bob Sinclair sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Suite et fin de Culture Média avec notre invité Bob Sinclair, Philippe.
Je l'ai dit, votre nouveau single qui a été créé pendant le confinement, il s'appelle I'm on my way, c'est avec Omi. Où est-ce que vous allez partir en vacances ?
J'ai pas très envie de partir en vacances, bizarrement. Je sais pas,
ah oui ?
J'aime bien Paris, là, y a pas grand monde dans les rues, il fait beau.
C'est quand les vacances pour vous ?
Y a rarement de vacances parce que l'été, les gens veulent danser, donc ouais. Moi je suis là. Et là, au mois de juillet, on sent qu'il y a des choses qui vont revenir à la normale. Il y a déjà des demandes qui arrivent pour des clubs à ciel ouvert en France. Ibiza réouvre là au 1er juillet, donc on va voir, je suis impatient.
Vous allez partir à Ibiza faire la saison ou faire des
alors,
DJ sets comme ça ?
Il n'y aura pas de saison à Ibiza, parce que comme les touristes viennent de l'Europe entière, je pense que chaque pays va rester vraiment, ils vont rester chez eux, je pense. Hein. Même les Français vont, je pense, partir en vacances dans le sud de la France. Ils vont redécouvrir leur pays, je pense. Hein.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer alors pour les boîtes et qu'est-ce qu'on vous dit que les règles de confinement, comment ça va se passer ?
J'ai pas de nouvelles encore sur les discothèques. C'est un peu la dernière roue du carrosse. Hein. D'abord les restaurants, on va voir comment ça se passe et petit à petit.
Oui, mais vous êtes pas serveur alors que vous êtes DJ.
Non, mais je parle pas de moi. Non, moi je suis DJ. Évidemment.
Non, mais moi je parle de vous.
Mais les gens veulent danser, ça va réouvrir.
Les coups de fil que vous avez reçus, les mails que vous recevez vont dans quel sens ?
Ils vont dans le sens du déconfinement, bien sûr, et que ça va réouvrir très bientôt. Mais je suis pas très. Moi, ça fait 25 ans que je tourne dans le monde entier, donc 3-4 mois, ça fait pas de mal.
D'accord. Et Miami, vous allez y aller ? Vous allez y retourner ?
Miami, non. Non, j'étais plutôt sur Los Angeles moi pendant 4-5 ans, mais non, je suis pas très impatient de retourner aux États-Unis.
Non, moi je parlais de jouer.
Jouer non plus. Non, je vais rester là en Europe. Hein.
Ouais.
Ouais, Italie, France, Espagne, cet été ça va se passer.
On parlait de ce single, I'm on my way avec Omi. C'est juste un one shot ou est-ce qu'il va y avoir un album ? C'est quoi votre carrière discographique maintenant ?
Là, je
Bob
fais
Sinclair.
Single par single. Je sais pas, tu vois comment se consomme la musique aujourd'hui sur les plateformes de streaming. Les gens se créent leur propre compilation. Donc, sortir un album, les gens vont écouter un titre, deux titres. Donc, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais aujourd'hui, la musique se consomme différemment.
Vous voulez dire que les gens n'achètent pas l'album ?
Non.
Quand bien même, il y aurait un prix plus faible. Et...
Oui. En tout cas, pas de moi. En tout cas, peut-être d'un artiste à voix, plus acoustique. En tout cas, pas sur la dance music.
Les gens qui vous découvrent maintenant ne savent pas qu'autrefois, vous aviez votre société, vous avez créé...
Mais j'ai toujours mon label.
Voilà.
Yellow Productions.
Et il produit toujours des choses ?
Bien sûr,
comment
bien
ça
sûr.
Se passe ? Qu'est-ce qu'on peut entendre chez
aujourd'hui,
vous ?
Aujourd'hui, c'est du mécénat. Hein. Mais là,
c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent à gagner dans la musique. C'est maintenant sur scène que ça se passe, c'est dans les lives.
Ouais.
Donc là, j'ai un jeune belge que je produis qui a un projet qui s'appelle Yanné. Et le premier single va sortir dans les semaines qui viennent et on est ensemble. En fait, je l'aide à se produire et ensuite, on verra. Voilà, j'investis sur lui, je ne suis pas une histoire parce que je l'aime bien, parce que je le trouve talentueux. Et on verra. S'il fait du live, un jour, bon, il y aura un petit pourcentage, mais ce n'est pas pour ça que je le fais.
Vous dites vraiment, c'est du mécénat, c'est devenu ça la musique. Je me souviens, je vais raconter comment ça se passait autrefois. Moi, je me souviens, les concerts coûtaient très peu cher. Mm-hmm. Et on allait voir un groupe en concert, on aimait tellement qu'on achetait le disque.
Exactement.
Maintenant, c'est l'inverse. La musique est gratuite et du coup, les concerts deviennent de plus en plus chers. Madonna, ça coûte un bras, les Rolling Stones, le pied.
Ça. Exactement. Et même l'entrée en club hein, à Ibiza, ça peut aller jusqu'à 80 euros hein, pour la soirée, sans consommation. C'est beaucoup d'argent. Ouais.
Voilà. Mmh. Mais c'est bien pour vous.
Oui, oui, oui. Alors, je ne te touche pas sur les entrées, mais ouais. Moi, j'ai un fille, mais c'est pas... Écoute, je pense que on rentre dans un univers, en tout cas à Ibiza, il se passe quelque chose dans les clubs où il y a une scénographie, voilà, les DJ sont là. Bon, c'est un prix raisonnable par rapport à ce qui se passe au niveau de la dance music en tout cas.
Je veux dire pourquoi je vous demandais où est-ce que vous alliez partir en vacances, c'est qu'en février dernier, vous avez posé nu pour la Saint-Valentin, vous sortiez de l'eau, c'était dans une vidéo, avec simplement des algues pour cacher les parties intimes.
Ouais, c'est par rapport au bronzé, toujours, il y a un petit côté
évidemment,
humour, évidemment,
Jean-Claude Duss. Sauf qu'il y avait ce slogan, I am eco-friendly, arrêtez d'acheter des maillots de bain, tout le monde à poil.
C'est pas mal. Moi, je viens. Moi, j'allais au Cap d'Agde en vacances quand j'étais jeune. Ouais. Donc, j'ai peut-être eu une petite nostalgie.
Et c'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. Je vais mixer à l'Amnésia qui va rouvrir bientôt d'ailleurs.
C'est où? C'est au Cap d'Agde.
Oui, c'est au Cap d'Agde. Ah, tu connais pas l'Amnésia? Tu connais juste le camp de naturiste.
Je sais juste qu'il y a un camp de naturiste au Cap d'Agde puisque j'ai vu toutes les émissions de reportage. Envoyé spécial, enquête exclusive, ils sont tous au Cap d'Agde, je ne sais pas pourquoi, et aussi les riches à Saint-Tropez. Donc voilà comment je sais, mais je suis jamais allé. Mais les gens ne sont pas tout nus.
Les gens sont au Cap d'Agde ?
Non, dans le club.
Mais pendant que vous mixez.
Bah, refais ça. Les gens sont habillés.
Voilà, Bob Sinclair, bien habillé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle votre nouveau single créé pendant le confinement. Ça s'appelle I'm on my way avec Omi. Et aussi sur vos chaînes, on peut revoir tous vos DJ sets que vous avez fait pendant
le confinement. Bien sûr, sur Facebook, tous les DJ sets. 55 DJ sets.
D'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec la journaliste Anniva pour son émission Dans quelle France on vit. Et puis, dans un tout autre genre, l'actrice Emmanuelle Béard, elle vient pour la sortie de l'album de Béard à Béard. Béard, évidemment, c'est hommage à son père, Guy Béard. Salut Céline Dacosta. Salut Bob Sinclair.
Salut,
à demain.
Merci à tous.